Aujourd'hui à l'émission, je reçois Maude et Wasila, deux femmes en situation de handicap qui nous partagent la discrimination qu'elles affrontent au quotidien. Le capacitisme, elles le vivent dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit dans leurs relations avec les autres, les institutions, le travail ou l'immigration. Elles nous racontent aussi comment leur engagement dans le milieu communautaire permet de faire tranquillement bouger les choses. Parole de génération, c'est un amplificateur des voix marginalisées. C'est un pont qui relie les jeunes, les aînés et les personnes issues de l'immigration au-delà de leurs différences. C'est un espace de dialogue audacieux pour dénoncer les injustices et trouver comment les combattre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parole de génération, un balado d'Intergénération Québec qui crée des ponts entre les générations de toutes les origines pour déconstruire les préjugés. Aujourd'hui au micro, je suis entouré de deux invitées vraiment inspirantes que j'ai rencontrées pendant les Journées de la paix et qui ont accepté de partager leur témoignage au micro. Merci d'être là.
Bonjour, mon nom est Wasila Hadjabi, je suis originaire de l'Algérie. Je suis d'abord aussi une femme en situation de handicap. Mm-hmm. Donc je me véhicule et je bouge et je danse en fauteuil roulant.
Et je danse, j'adore la précision, oui, parce qu'on a dansé ensemble justement au jour
danser.
De la paix, c'était tellement un beau
ça
moment.
Ça m'a donné une liberté ce fauteuil roulant, ouais. De pouvoir danser à ma guise.
Oui.
Donc, et j'ai 55 ans ou 56 ans, je ne sais plus, je suis née en 1967.
Ah, parfait, excellent, merci Wasila.
Bonjour, je m'appelle Maud Mascotte, j'ai 30 ans, je viens de Montréal et je suis moi-même en situation de handicap, donc j'ai différentes limitations, autant motrices, auditives et langage, parole également.
On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus justement parce que le thème aujourd'hui, c'est le capacitisme. Mais avant de rentrer là-dedans, moi la question que je pose toujours pour commencer, c'est quoi le préjugé que vous êtes tanné d'entendre?
C'est la grande question. c'est sûr que pour ma part, pas toujours dans un fauteuil comme à comparer de Wasila, c'est le fait que les gens pensent que j'ai une déficience intellectuelle, alors que j'en ai pas de déficience intellectuelle. Donc, les gens prennent pour acquis que pour avoir une déficience motrice, il faut avoir une chaise roulante, une aide à la mobilité, que ça soit une canne ou que ça soit une marchette ou autre.
En fait, être en situation de handicap, c'est multiple. C'est multiple comme est multiple les différentes caractéristiques d'une personne. Et on est différentes et différents parce que, bon, on est des femmes aussi. Donc, avant tout, on est des femmes, autant moi que moi-même. Le handicap ne se définit pas seulement au fauteuil roulant, pardon. Il peut être multiple, il peut être même invisible. Et beaucoup de personnes, en fait, certaines personnes, ils ne le disent pas parce qu'ils peuvent le cacher si ça ne leur cause pas vraiment de l'incapacité, finalement. Ils peuvent peut-être le cacher pour pouvoir passer plus facilement parce que c'est les préjugés en longue vie. Pour revenir à la question que tu posais à l'origine, c'est quoi que je suis tannée d'entendre. Non seulement, en fait, moi, je suis tannée d'entendre parce que j'ai oublié de dire ce que j'étais aussi, c'est que je suis une femme musulmane et je porte le voile actuellement. Et donc, je suis tannée d'entendre la question du voile et la question comment on nous voit comme des femmes soumises ou sous la domination de telle et telle. Non, je ne suis sur la domination de personne. C'est ma croyance, c'est ma relation à Allah, à Dieu. Donc, je la vois comme ça. Et ça ne change pas ce que j'étais avant. Je ne portais pas le voile. C'est un choix personnel. Donc, c'est important. J'en ai marre d'entendre ces histoires-là. On est des femmes comme tout le monde. Et c'est comme un mettre une capuche, l'autre, il met une casquette, l'autre, elle s'enlève les cheveux, elle les rase complètement. C'est son choix.
Exactement.
Elle en fait ce qu'elle veut.
Chaque épisode, je le commence toujours avec un segment que j'appelle « Qu'est-ce que ça veut dire? » Parce que souvent, quand on parle de discrimination, on utilise des mots. Et ces mots-là, on a chacun notre définition dans notre tête. Puis, quand il y a des désaccords, des conflits, des chicanes, si on creuse derrière d'où ça vient, c'est parce qu'au final, on n'avait pas la même définition du mot. puis on n'arrivait pas à s'entendre à cause de ça. Donc là, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va partir avec la base, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui connaît ce mot-là. J'ai envie qu'on explique un petit peu plus aux auditeurs qu'est-ce que ça veut dire le capacitisme.
Le capacitisme, ben, c'est relié aux personnes en situation de handicap. Donc souvent, on peut retrouver des situations où que les personnes en situation de handicap peuvent être confrontées. Donc souvent, une personne peut très bien penser qu'on n'est pas capable de faire quelque chose alors qu'on peut le faire et la personne n'a pas pris le temps de le demander également et a juste supposé, juste en nous voyant, donc n'a pas vu un peu les facettes invisibles.
En fait, le problème majeur, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas homogène. Donc, nous aussi, comme groupe de personnes en situation de handicap, on n'est pas homogène. Ma connaissance du handicap est différente de sa connaissance du handicap. Et ça prend aussi tout un apprentissage. On a internalisé, malgré nous, comme personnes en situation de handicap, les préjugés des autres à l'égard des personnes handicapées. On les a internalisés. Et pour les déconstruire, ça prend beaucoup de temps. Donc, pour moi, il n'y a rien qui m'étonne. Même moi, je dis j'ai des préjugés et je dois les déconstruire. Et on doit apprendre à n'importe quel âge à déconstruire ce qu'on a reçu, ce qu'on nous a inculqué malgré nous. Et c'est ce que décrit Maud, c'est vraiment le capacitisme, c'est tous les préjugés qu'on associe à la personne en situation de handicap. Donc, on peut être au niveau de l'apparence physique, au niveau de l'intellect, au niveau des émotions. Il y en a qui ont des incapacités au niveau émotionnel.
Oui.
Et ce n'est pas de leur faute. C'est comme ça qu'ils sont construits.
Tu nommais quelque chose de super intéressant, Wazila, par rapport aux capacités, que moi, je ne savais pas au départ en faisant des recherches, mais que ça inclut aussi justement les handicaps mentaux, donc toute personne qui vive, que ce soit de l'anxiété généralisée, de la bipolarité, etc.
Handicap mentaux, okay. On va dire une limitation intellectuelle.
Une limitation intellectuelle, mais merci. Merci beaucoup, Maud, de prendre le temps. Puis comme tu
c'est
dis...
C'est ça, il faut renommer les choses.
Il faut renommer les choses. Il ne faut pas avoir peur quand une personne se trompe de le dire puis se faire comme « Ah, ben tu vois, je ne savais pas, je viens d'apprendre quelque chose. » puis de...
Mais c'est avec le temps qu'on évolue. Par exemple,
ben oui.
Avant, les personnes, on parlait de sourds, muets. On ne dit pas ça. On dit « personne sourde ». Elle est pas muette. Elle est muette, entre guillemets. Elle ne parle pas
à cause
du fait qu'elle n'entend pas. Donc, c'est l'apprentissage de la parole se fait par comparaison, parce qu'on entend. Si on n'entend pas, on va parler, mais il y a des gens qui ont pratiqué, à qui on a pratiqué la parole et qui arrivent à parler.
Et puis c'est là où je trouve que justement, il y a quand même des liens à faire parce que dans les autres épisodes du balado, on parle beaucoup de racisme. Puis le capacitisme a cette même espèce de notion-là où est-ce que, bien, on a toujours à apprendre, il y a toujours des choses à déconstruire. Donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper parce qu'on est, là pour apprendre finalement. Puis au contraire, ça nous permet d'apprendre des nouvelles choses. T'sais. Donc, c'est pour ça que je trouve ça génial d'avoir ces discussions-là ensemble. J'aimerais ça peut-être justement, avant d'aborder ce sujet-là, que vous parliez un peu de vous, votre expérience personnelle, votre handicap, qu'est-ce que c'est, comment c'est apparu et puis c'est quoi les impacts, là, les limitations au niveau physique?
Bien, pour ma part, mes limitations, c'est dû à un accouchement qui s'est mal déroulé, donc je suis née à terme. Malheureusement, les médecins ont trop tardé à faire une césarienne d'urgence, donc j'ai manqué d'air à la naissance. Ils ont dû me réanimer 2 à 3 fois, donc j'étais un peu comme, entre guillemets, un petit bébé un miracle. Ce qui fait en sorte que la paralysie cérébrale, c'est vraiment affecté mes 4 membres, donc les 2 bras, les 2 jambes. Et surtout, ma plus grande limitation, c'est aucune dextérité manuelle. Donc, de prendre un verre d'eau, c'est impossible pour moi de boutonner ma chemise. Donc, ça va toujours prendre des personnes dans mon quotidien pour m'aider à certaines tâches, justement, de tous les jours pour être capable de pouvoir avoir vécu comme n'importe qui aussi, de cette façon-là. Il y a aussi une surdité, donc je suis appareillée des deux oreilles. Je suis vraiment de moyen à profond des deux, donc je suis appareillée depuis l'âge de mes 6 mois, 1 an également. Et il y a aussi le trouble de langage parole qui vient avec l'appareil cérébral. Donc c'est vraiment dû les muscles du visage qui ont été affectés, donc paralysés, qui fait en sorte que le message rentre très bien au cerveau, mais une fois le transmettre, souvent il y a certains sons, certains mots ou consonnes ou voyelles qui vont pas sortir de la bonne façon.
J'aimerais juste dire que Maude est une très belle jeune femme, à tout point de vue.
Oui, oui. Un vrai bébé miracle, c'est vrai, je suis d'accord avec ça.
Mais elle est belle, elle est belle aussi. Oui. Elle a l'avantage, en tout cas, ou la chance d'être belle.
Oui,
ouais, mais je voudrais quand même rajouter qu'il y a quand même encore des préjugés de gens qui me disent « Ah, t'es handicapée, c'est de... mais pourtant t'es belle. »
Ouais. Ah non, moi je te le dis pas dans ce
sens. C'est ça pour me dire, coudonc, il faut être là pour être handicapé.
Ah oui, il y a ceci, ça, ensemble.
Alors, moi, je suis née bébé à terme régulier. Mais avant, juste avant d'avoir 3 mois, j'ai attrapé la poliomyélite. Donc, j'ai attrapé le virus de la polio qui a causé une méningite très grave et j'ai eu un blocage des sphincters. J'ai failli mourir. J'ai les deux jambes atteintes, donc au niveau à partir des hanches et en bas, un bras et l'œil. Parce que la poliomyélite, elle atteint les nerfs moteurs.
Okay.
Elle n'atteint pas les nerfs sensitifs. Donc je suis capable de ressentir toute la douleur, tout, mais les muscles ne répondent pas. Donc ça, à l'âge de 3 mois, donc moi j'ai dû malheureusement être expédiée en France. Parce que ma mère avait pu avoir, elle était infirmière, elle avait pu avoir une prise en charge à l'époque. L'Algérie avait beaucoup d'argent, donc ils envoyaient certains enfants en France pour se faire soigner, supposément. Et donc je suis restée dans une maison pour enfants, un hôpital pour enfants en fait, à Antony, dans la région parisienne, le sud de Paris, pendant 2 ans. Mais à partir de, donc j'avais 5 mois à peu près quand on m'a expédiée là-bas. Mais ceci dit, j'ai eu la chance d'aller en France pour soi-disant me soigner, mais il reste que ça a laissé des séquelles dans le sens où j'ai été loin de ma mère, donc je suis restée dans un hôpital et j'ai développé des problèmes de comme un enfant abandonné finalement. Je me suis sentie abandonnée toute ma vie. Mmh. Or j'avais une mère, j'avais un père, mais bon, ma mère biologique n'était plus avec moi. Quand je suis arrivée au Québec, il y a plus de 23 ans, là, j'ai appris qu'il y avait un syndrome post-polio. Et donc, il y avait des séquelles autres que la locomotion, mais donc des problèmes de fibromyalgie, de la douleur chronique, donc des problèmes respiratoires et de fatigue chronique. Et ça m'est tombé dessus quand j'étais en train de faire mes études en France à l'époque, donc quelques années après, une vingtaine d'années après, quoi. Donc voilà. Et bon, par la suite, j'ai développé d'autres problèmes. Malheureusement, toutes les batailles que tu dois mener ta vie, bon, moi j'ai 56 ans, 55 ans, j'ai développé des problèmes de dépression chronique, d'anxiété devant le milieu du travail, des choses comme ça.
Mm-hmm. Ouais. Ben oui, c'est sûr, ça a eu un impact au niveau émotionnel, j'en doute pas. Parlons-en justement, rentrons dans ces différentes sphères-là. Comment est-ce que, tu sais, on a donné une définition un peu plus théorique du capacitisme, mais là, j'ai envie de voir au jour le jour, tu sais, comment ça se matérialise, ce phénomène-là, finalement. Donc, j'ai envie d'explorer plusieurs sphères ensemble. Pour commencer, dans vos interactions avec les autres, c'est quoi les comportements ou les propos, justement, qu'on doit faire attention pour ne pas être capacitiste, finalement?
Je te dirais que c'est complexe. Hein? L'humain est complexe. Hein? Les interactions humaines sont complexes. Je pense qu'il faut être, bon. Il faut avoir le cœur à la bonne place. Il faut être bon, il faut avoir de l'empathie. L'empathie, ce n'est pas la pitié. Et il faut avoir, si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, tu poses la question naïvement. Sans être trop condescendant ni rien du tout, mais le poser naturellement. Est-ce que ça te dérangerait? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que ça peut te déranger? Mais ce que je dirais d'abord d'emblée, c'est l'éducation des parents. Si les parents éduquent leurs enfants à l'acceptation de la différence, de voir, moi les enfants, quand ils me voient dans la rue, moi je trouve pas de problématique que l'enfant me dit, ah pourquoi tu veux pas marcher? Et pourquoi tu portes le fauteuil? Et pourquoi tu portes l'appareil? Et pourquoi? Je réponds, c'est normal. Mm-hmm. C'est normal. Il ne voit pas, il n'a pas l'habitude de voir. Ou il voit, il questionne, c'est tout. Fait, ce que je trouve pas normal, c'est quand les parents leur disent, non, non, ça va, laisse tomber. C'est-à-dire, ils sont mal. C'est eux qui sont mal, c'est pas l'enfant. Laissez vos enfants poser les questions, c'est important. Et de leur dire que cette personne est si valide que, je veux dire, elle vaut quelque chose. Dans le sens, si tu montres à ton enfant, comme ils le font pour des personnes noires ou des enfants noirs, oh, tu l'éloignes de cette personne-là. C'est quoi le message qu'il va avoir? Ah, elle est noire, il ne faut pas l'approcher. Ah, elle est handicapée, il ne faut pas l'approcher. Ce n'est pas bon. Il y a un message de répulsion et de négativité.
Ça crée un tabou, finalement, essaie de les mettre à part.
Ça crée un tabou et un rejet. Mm-hmm. Pas seulement le tabou, ça crée le rejet aussi.
Puis de laisser les personnes en situation de handicap, finalement, parler par eux-mêmes. Puis c'est comme ça que les jeunes vont apprendre. Tout... Alors, c'est une belle occasion, au contraire, avoir cette discussion-là.
Mais regarde, tu as dit parler, mais ce n'est pas tout le monde qui parle. Il y en a qui ne peuvent pas parler. Mais de ne pas avoir... L'enfant se construit à travers tes yeux aussi. Donc, si tu as un dégoût, ton enfant, il va le sentir. Il va comprendre.
Maud, toi?
Tout simplement, on a tendance à justement penser que les personnes en situation de handicap ont tout de suite besoin d'aide. Donc, dès qu'on voit une personne avec une cape blanche ou en traversant la rue, on va tout de suite prendre le bras, alors que peut-être qu'elle n'a pas besoin d'aide pour le faire. Donc, de toujours demander à la personne avant de faire quoi que ce soit, fait que vous risquez de blesser la personne ou blesser vous-même aussi, ou peut-être qu'elle ne veut pas non plus que vous croyez dans sa bulle également aussi. tu vois, là, on peut voir aussi, on peut avoir des préjugés aussi, parce qu'il y a des handicaps invisibles. On en a très peu parlé, mais un enfant qui pète une crise dans un magasin, on va tout de suite penser que l'enfant est gâté, il veut ce qu'il veut, il fait son caprice, alors que peut-être qu'il y a un trouble de l'autisme ou qu'il y a un bruit fort qui est arrivé, ça a déclenché une crise de désorganisation. Donc, il y a encore tout ça à déconstruire aussi sur le handicap là, à ce niveau-là. Puis souvent, il y a aussi le regard des autres, c'est très important aussi. Oui, effectivement, comme Wassila le disait, les jeunes enfants, les autres, ils sont tellement curieux de la terre. Donc, laisser leur enfant aller vers nous, c'est un très grand pas. Donc, c'est sûr d'avoir une meilleure éducation dès le jeune âge, de pouvoir justement éduquer la différence et aussi de permettre aux personnes en situation de handicap d'aller dans des écoles régulières aussi pour justement être capable d'avoir une meilleure inclusion. Parce qu'actuellement, il y a encore beaucoup de intégration ou de ségrégation où qu'on va mettre les personnes en situation de handicap ensemble et après, quand on a plus de 21 ans, on est retourné dans la société et c'est plus ça la vraie vie. Donc, on doit justement jongler avec tout ça et des fois, c'est pas facile non plus aussi. C'est aussi avec le monde de service. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux aussi qu'à laquelle que Monsieur, Madame Tenon, ils ne sont pas au courant non plus.
Justement, mais prochaine question, oui.
J'aimerais juste mettre l'emphase sur quelque chose que Maudre signale, c'est important là. Elle a parlé du trouble de l'autisme, d'un enfant qui fait la crise. Alors, souvent, pour l'avoir vécu avec mes amis à moi, alors, mes amis en particulier, c'est des femmes qui portent le voile. Alors, on les regarde de travers, en pensant qu'elles ont mal éduqué leur enfant. Mmh. Et cette femme-là, elle est dans cette société-là où elle parle, elle est... C'est comme... Toute mère, pensez-vous qu'elle voudrait avoir ce fardeau-là, à encore plus vivre le quotidien de se débattre pour avoir des services, parce que, par exemple, cette mère a des problèmes pour avoir un orthophoniste, pour avoir une évaluation de son enfant qui a 4 ans, et qui n'est pas encore évalué, les gens, quand il fait la crise, ils la regardent comme si c'est elle le monstre.
Ils mettent tout de suite la faute sur le parent, finalement.
Le regard, elle fuit les parcs où il y a beaucoup, par exemple, je suis désolée là, de le dire, mais des Québécois, là, parce qu'ils la regardent tellement mal qu'elle fait un peu de l'anxiété maintenant à cause de ça, parce que elle va dans le parc où il y a, quand il y a personne, ou dans des parcs un peu moins fréquentés, quand elle a un tout petit parc juste en face de chez elle, pour éviter le regard, ce regard-là des gens qui la regardent parce que la regarde son fils comme si c'était, il y avait un problème et que c'était un cas presque de la DPJ ou un truc comme ça. Donc, je suis désolée.
C'est
quelque chose que j'ai vécu. Ouais. Je le raconte pas. C'est pas. Ça semble sortir d'un film, mais je vous assure que c'est la réalité.
J'en doute même pas. J'avais envie de voir au niveau plus institutionnel, que ce soit les soins de santé ou l'éducation ou peu importe, c'est quoi le capacitisme plus systémique qui existe en ce moment là? C'est quoi les plus gros obstacles auxquels vous vous heurtez?
Pas de logement adapté, pas de service à domicile, pas d'éducation, une éducation inclusive. Pas d'emploi, pas de travail pour nous. Parce que moi, je suis surdiplômée, mais je n'ai pas d'emploi. Parce que j'ai peur du milieu du travail.
Puis là, je sens qu'il y a comme une petite ritournelle. Là, fait qu'il y a la vie. C'est rendu un peu les messages. J'imagine que ça fait longtemps que vous les répétez, puis il n'y a pas beaucoup de changements.
On les répète, j'imagine. On les répète, mais c'est comme on dit chez nous en Algérie, quand on faisait la vaccination du virus polio, là, ils disaient. Dans la vaccination, Iada, Ifeda, j'ai suivi le même rite. Ça veut dire, plus tu te vaccines, plus mieux c'est.
Non, c'est vrai, je crois que dans tous les domaines, il y a des enjeux au travail, ou soit à domicile, ou peu importe, mais aussi plus institutionnel, aussi juste avoir, mettons, avoir un rendez-vous médical ou un suivi médical de façon adéquate. La plupart, ça m'est déjà arrivé d'avoir... dû avoir un examen quelconque, mais la machine ne pouvait pas le faire vu qu'il y avait trop de place. Donc, on n'a pas pu voir de quoi. Il y avait beaucoup de douleurs au bras droit, donc j'étais toujours engourdie. Donc, mon neuro m'a envoyé faire un test et malheureusement, j'ai pas pu avoir aucun résultat parce que les techniciens disaient « Ben, désolé, notre machine est trop sensible. » Donc, il y a encore beaucoup de ce genre de choses-là. On met beaucoup, bon, ben, on l'a essayé, puis après ça, ben, on arrête, là, à ce niveau-là aussi. Oui, l'équipement médical, juste faire un test. Ah, désolé, on n'a pas de personne pour transférer sur la table médicale. On n'a pas personne pour justement vous accompagner, pour vous déshabiller. Donc, encore une fois, pour avoir un accompagnateur, une accompagnatrice, pour prévoir ce genre de situation-là aussi. Mm-hmm. Donc, puis on les infantilise beaucoup dans le sens que souvent, ils vont pas nous prendre pour acquis non plus. Donc, ils vont souvent s'adresser à la personne qui m'accompagne aussi. Pour s'assurer c'est vraiment ça que je veux aussi. Donc, on ne va pas s'adresser à moi en tant qu'individu, en tant que femme qui souhaite avoir un traitement ou autre. Donc, c'est ça que je parle au niveau institutionnel, mais c'est partout, dans tout. Là. Donc, l'infantilisation, c'est tellement un sujet, c'est relier toutes les personnes en situation de handicap. C'est comme si on n'était pas capable de prendre une décision par nous-mêmes.
Mmh. Savez-vous qu'on stérilisait les femmes pour qu'elles n'aient pas d'enfants? Parce que pour elles, c'était un fardeau qu'elles aient des enfants. Ils n'ont pas le droit d'enfants, donc on nous stérilisait sans notre permission. God. Et jusqu'à ce jour, on utilise encore un contraceptif qui s'appelle le Depo-Provera, qu'on donne à d'autres personnes aussi, mais qui a des conséquences sur la stérilité, donc qui peut rendre stérile, pour arrêter les règles aux femmes et des choses comme ça, comme on dit. Et en fait, l'infantilisation, elle est à tout âge. Hein. C'est pas parce que Maud est très jeune, non. Même nous femmes qui avons l'air d'une femme, on va nous infantiliser. Donc, la santé gynécologique, c'est comme l'avortement. Il faut toujours être...
Il faut toujours être aux aguets parce que les reculs viennent
nous,
rapidement.
Nous, ouais. L'avortement, on nous donnait d'office. Donc, nous, c'est une des raisons dans les groupes, quand on défendait, on disait, nous, on est à l'inverse. On est comme les femmes noires. à qui qu'on stérilisait pour qu'ils aient pas d'enfants aux États-Unis et tout ça. Nous, c'est la même chose. On nous stérilise pour ne pas avoir d'enfants.
On dirait vraiment qu'il y a comme c'est ça qui essaie de qui veulent pas que les personnes handicapées.
C'est le génisme, une forme,
ouais.
une forme de génisme.
Ouais. Puis il y a aussi voilà. par rapport à la DPJ là, je sais qu'il y en a qui ouais. que comme les parents qui sont en situation d'handicap rapidement.
Alors, oui. Oui, ouais. oui. D'ailleurs, moi, mon premier conjoint, là, il y avait beaucoup de problématiques avec lui et tout. Et j'avais peur de le quitter parce que j'avais peur qu'on m'enlève mon enfant ou qu'on lui donne l'enfant parce que lui, c'est une personne, un homme valide et que moi, j'étais en situation d'handicap. Et bien, j'ai dû attendre jusqu'à que mon fils puisse parler et qu'il ait 12 ans pour demander ça. Donc, c'est des craintes. Et là, les parents aussi, il y a des parents en situation de handicap que nous connaissons, qui ont, par exemple, le père à la paralysie cérébrale. Eh bien, on le sous-estime par rapport à papa. La maman aussi a un type de handicap, mais elle est... En tout cas, on sous-estime la capacité d'être un bon parent parce qu'on est en situation de handicap. C'est clairement ça. Voilà. Et maintenant aussi, on s'attaque de plus en plus aussi aux personnes immigrantes. Là, on entend beaucoup de cas de personnes immigrantes qui se voient enlever leurs enfants parce que la façon comment ils éduquent leurs enfants, elle est un peu différente. Peut-être les mots qu'on utilise sont différents, peuvent être interprétés. Moi, ça m'est arrivé que j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit comme le mot là, j'ai dit, quand c'est très grave, on va dire, oh mon Dieu, je vais presque mourir ou je vais presque... Eux, ils pensent, alors tout de suite, vous voulez vous suicider, vous voulez... C'est juste pour démontrer l'urgence où comment dire, on dramatise, en fait, dans les termes, c'est tout.
Les pieds les mots au pied de la lettre, je veux dire.
Ils prennent voilà.
Plutôt que d'essayer de voir c'est quoi la véritable intention.
L'intention,
derrière,
et puis... c'est culturel. Oui. On parle comme ça. Oui. Mais laissez-nous le temps. C'est pas en 6 mois qu'on va apprendre la langue, M. Legault, excusez-moi, là.
Ouais. Je voudrais juste revenir aussi au niveau de l'aide à domicile aussi ouais. pour vous faire du pouce aussi oui. sur le fait que si on est infantilisé, on a des besoins, on les réclame. Moi, de mon côté, je ne voulais pas avoir d'hommes préposés. Et une année, ils ont été désolés, on ne peut pas te garantir, mais si on peut éviter, on va le faire. Ils disent OK, c'est beau. Et un moment donné, je me suis retrouvée, il y avait un préposé homme. Et le préposé homme avait la même mère que moi. On fait qu'on s'entend que toutes les deux, on était à l'aise. Donc, j'ai fait le service, ça a été de façon très professionnelle, tout s'est bien déroulé, mais j'ai quand même été voir la direction en disant, ben, désolé, je ne me suis pas sentie à l'aise et lui-même aussi, donc ça serait possible de que ça se reproduise plus. Et tout de suite, on a mis la puce à l'oreille en disant, ah, il t'a fait quelque chose, on va te dénoncer, il t'a manipulé, c'est comme... Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que ça s'est bien passé, mais il y a un malaise et je ne suis pas confortable de recevoir ce service. Donc, il y a encore une autre forme d'infantilisation aussi où qu'on va tout de suite penser qu'on est aussi dans l'air des agressions, des manipulations aussi. Donc, de tout de suite s'agresser, de dire comme... Ah, on est vulnérable, il s'est passé quelque chose. Donc, je pense que c'est important de dire ce genre de situation-là qu'on vit aussi.
Et ça se passe comme ça dans les hôpitaux. Dans les CHSLD, on t'impose des gens, des femmes qui ne veulent pas, qui se font manipuler par des hommes. Je ne dis pas que les hommes sont mauvais, mais est-ce que j'ai besoin, est-ce que vous pouvez respecter ma pudeur? Alors, imaginez des femmes qui sont voilées, qui posent cette question.
Ouais.
Il y a des problèmes, il y a des préjugés. Bon, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé contre les Autochtones avec les préjugés. C'est ça. Si on respectait la volonté des gens, on ne serait pas arrivé à ces horreurs-là qu'il y a eu auparavant et qu'il y a dans la vie des personnes en situation de handicap.
Pour répondre à ta question au niveau du travail, ben, il y a d'autres enjeux aussi. Donc, il y a des programmes qui existent pour embaucher les personnes en situation de handicap, mais ça correspond pas à tout le monde non plus. Et souvent, on va évaluer la non-performance et non la performance de la personne pour essayer de justement aller chercher un pourcentage pour que le gouvernement puisse donner une partie à l'employeur pour aider l'employeur. Il y a aussi beaucoup de personnes, il y a encore beaucoup de préjugés que comme Wassila le disait, qu'elle n'était pas à l'aise d'être au marché du travail. Donc, souvent, ils sont dans des programmes d'aide sociale qu'on appelle contraintes sévères à l'emploi.
Okay.
Souvent, on va mettre beaucoup le préjugé que c'est des personnes qui sont paresseuses, qui ne veulent pas travailler. Mais juste être en situation de handicap, de vivre en appartement, de pouvoir gérer ses services à domicile, de gérer ton épicerie, de gérer ton quotidien. C'est juste un travail en soi.
Mm-hmm. Puis là, dans le fond, ce que tu dois remplir, c'est une espèce de formulaire. Puis là, ça va dire, ben, à tant pour cent, t'es pas capable de produire tant de pour cent. Fait que c'est un peu dans le négativisme, un peu, j'ai l'impression de comme dire...
Effectivement, quand l'employeur reçoit la subvention, c'est-à-dire la compensation, en fait, ils disent le manque de productivité, c'est comme ça que ça appelait. Donc déjà, c'est négatif, effectivement.
Ouais, ouais.
Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est le manque de productivité de l'employé. Et on leur donne un pourcentage, 40%, 50%, peu importe ce qu'on obtient. Mais normalement, en tout cas, nous, notre vision, c'est de le réinvestir pour faciliter le travail de l'employé.
Par rapport à justement comment ça se passe d'immigrer quand on est en situation d'handicap, j'imagine déjà immigrer, c'est pas facile. J'imagine avec un handicap, on doit te mettre encore plus de bâtons dans les roues.
Alors, je te dirais, ça dépend d'où tu viens. Déjà, c'est tout un enjeu.
Mm.
D'abord, quand on veut immigrer, moi, personnellement, j'ai eu très peur. Je me suis dit, ils vont me discriminer sur la base du handicap. J'étais encore en France à l'époque, j'étudiais. Et j'ai pris un avocat. J'ai pris un avocat pour pouvoir passer, pour pouvoir orienter le mieux possible pour qu'on ne me refuse pas parce que j'avais un handicap. Mais ce n'est qu'au Québec, quand je suis arrivée, que j'ai compris que le fardeau du handicap était quand l'handicap est très lourd.
Okay.
On peut te refuser même si tes parents sont milliardaires. Mais disons que, d'après ce que j'ai vu au niveau de la jurisprudence et tout ça, c'est que souvent, l'enfant, il est très handicapé, et donc lourdement handicapé, il aurait besoin trop de services, il n'aurait pas été accepté. Mais ce que j'ai vu les gens arriver en général, ce sont des gens souvent qui ont la poliomyélite.
Mmh.
Donc, qui viennent de l'Afrique, de l'Afrique du Nord ou du milieu ou du Sud, peu importe, qui viennent ou qui viennent comme réfugiés. Alors... il y a quelques années, les organisations de défense des droits pour les personnes immigrantes, associées avec donc des personnes handicapées, ont revendiqué le fait que les personnes immigrantes, quand handicapées, le fardeau, c'est-à-dire même s'ils sont lourdement handicapés, ils ne puissent pas être le fardeau du handicap. L'handicap ne soit pas un fardeau pour le traitement de leur cause,
mm-hmm.
au niveau de l'immigration et des réfugiés, quoi.
Ouais.
Donc, le dossier passe et on ne tient pas compte du handicap. Donc ça, c'était un gain.
Okay.
Mais il reste que pour l'immigration régulière, c'est toujours le handicap. S'il est trop lourd, on refuse les gens. On a refusé des personnes qui venaient, pas seulement de l'Afrique, mais qui venaient de l'Europe, de la France ou de l'Allemagne, je ne me rappelle plus, qui ont été refusées parce que leur enfant était lourdement handicapé.
Ouais. Puis au niveau d'avoir accès à tous ces programmes-là qu'on parlait juste avant, comment ça se passe
quand on arrive, avant, il y a quelques années, c'était beaucoup mieux que maintenant. Maintenant, c'est comme tu arrives, on t'oriente plus ou moins et tu dois suivre toutes les démarches. Moi, j'ai suivi toutes les démarches. Donc, et à l'époque, on ne m'a pas parlé du transport adapté. Donc, je ne savais pas. Donc, la première année, j'ai galéré. Je restais à la maison parce que je ne pouvais pas marcher longtemps. Et j'avais des béquilles encore et c'est beaucoup de souffrance pour moi. Je souffrais, j'avais beaucoup de douleurs et je sortais très peu. Moi, ce que j'entends, là, les gens, ils sont pas mal perdus au début au niveau du système et tout.
Il y a un manque de prendre le temps pour ces personnes-là de savoir c'est quoi les ressources qui existent ici, comment on s'y prend faciliter finalement.
C'est devenu plus difficile maintenant par rapport à ce qui c'était avant.
Mmh.
Avant, il y avait un accueil qui est beaucoup plus intéressant, disons.
Okay.
Mais là, de plus en plus, bon, il y a des organismes communautaires une chance, parce que sinon, ils seraient perdus. Il y a des organismes communautaires qui s'adressent aux personnes immigrantes. Et il y en a un seul au Québec qui s'adresse aux personnes immigrantes handicapées.
Okay.
D'ailleurs, qu'on voudrait taire, à un moment donné, on a entendu qu'on voulait le fermer quelque part ou le rendre homogène comme pour toutes les personnes handicapées. Mmh. Et moi, personnellement, je défends cet enjeu parce que j'ai vu les services qu'ils donnaient à la communauté immigrante. C'est pas tous des francophones, c'est pas tous des gens qui ont de l'instruction. Mmh. Parce que quand on vient de l'Inde ou dans certains pays d'Afrique, que tu n'as pas les aides à la mobilité, tu traînes par terre. Hein. Mmh. Moi, je les ai vus avec mes propres yeux. Mmh. Ils n'ont pas de fauteuil roulant, donc c'est pas des personnes qui ont fait des études comme ils ont pu, qui travaillaient, tout. C'est tout un engrenage dans lequel... Donc, une société d'accueil doit les accueillir mieux, normalement. C'est pour ça qu'ils voyagent, qui traversent des frontières pour être mieux. Mmh. Moi, personnellement, il ne me manquait rien. Ce n'est pas une question d'argent que je suis venue au Québec. Mmh. Pour moi, je cherchais ma liberté. Mmh. Et je l'ai trouvée, ma liberté.
Mmh. Mmh. Merci beaucoup. On a parlé un peu des organismes. Parlons-en, parce que là, le constat est clair. Là, il y a beaucoup de capacitisme. Mais j'ai envie justement de terminer peut-être vers... essayer de voir c'est quoi les solutions. Donc, je sais que vous travaillez comme bénévole, comme employé pour des organismes qui viennent en aide là, aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est quoi les services qui sont offerts? C'est quoi ces organismes-là? Et puis, c'est quoi les changements pour lesquels vous vous battez finalement?
Le financement d'abord. Parce que des organismes, on a des organismes qui sont forts, qui ont des services à donner, il y en a qui donnent de la défense, qui font de la défense des droits, on en a besoin. La discrimination existe et persiste. Mmh. Il faut toujours faire de la sensibilisation. Si on arrête, on revient en arrière. Donc, on a besoin de ces organismes communautaires et on a besoin que ces organismes communautaires soient bien financés à la mission.
Ouais.
À la mission. Les besoins ont augmenté ou bien, je dirais plus, la COVID a exacerbé les besoins et elle a révélé des lacunes de plus en plus. Ne serait-ce que le logement. Moi, actuellement, je travaille ponctuellement sur le dossier de logement. Eh bien... À tous les jours, j'ai des gens qui cherchent du logement, notamment du logement familial, c'est-à-dire plus que deux chambres. Supposons que tu as 4 enfants, dont un est handicapé. Ta maison, il faut qu'elle soit accessible. Mmh. S'il est en fauteuil roulant ou il a une incapacité motrice, ta maison, ça doit être un 6,5, un 7,5, accessible au moins minimalement et adapté dans le meilleur des mondes. Donc, il faut beaucoup. Et les personnes en général, ces familles sont des familles quand même qui n'ont pas un gros revenu. Donc, il faut que ce soit du logement social. Donc, plus de HLM, plus d'OSBL, plus d'autres formes de coopératives pour pouvoir intégrer tout le monde. Et ce qu'il y a aussi, on a les personnes en situation de handicap, les personnes à mobilité réduite, pardon. On a un programme au Québec qui s'appelle le supplément loyer pour personnes à mobilité réduite. Et le problème, c'est que les barèmes de ce programme de soutien au loyer n'est pas égal à ce qui se trouve sur le marché. Donc, les personnes se trouvent sur une liste, ils obtiennent la subvention, mais ils ne peuvent pas trouver un logement qui réponde au barème parce qu'ils leur mettent des limites. Mmh. Vous ne devez pas, par exemple, pour un 6,5, tu ne peux pas dépasser 1325, par exemple. Eh bien, elle ne trouvera jamais un 6,5 à 1325. Il faut tabler sur 2200, 2300 minimum. Mmh. Tout dépend des quartiers. Mmh. Donc, c'est comme, oui, on a un programme, mais on n'a pas les barèmes qui sont adaptés. Donc, le ministre de la Santé devrait mettre ses barèmes à jour avec la réalité du marché privé, par exemple, en tout cas.
C'est ça que donc besoin que je vois, c'est que les organismes qui travaillent pour les personnes en situation de handicap, on n'est pas reconnu, notre expertise n'est pas reconnue au sein des institutions, au sein du gouvernement, pour dire qu'on a une expertise. Souvent, ils vont souvent aller chercher l'expertise, si tu vois, dans des... médical ou autre, ou des diplômes à plus finir, alors que les organismes communautaires, on travaille sur le terrain et on connaît les réels besoins. Donc, le manque de ressources, le manque de financement, mais aussi notre expertise, c'est souvent très dévalorisant aussi, puis de dire, OK, c'est souvent, on va mettre des demandes de subventions, des appels de projets, mais souvent, c'est souvent des demandes que, bon, on n'a pas trouvé les mots nécessaires ou on n'a pas trouvé la bonne formule parce qu'on n'a pas étudié en philanthropie ou on n'a pas trouvé quelqu'un pour justement nous permettre de mettre tout ça ensemble aussi. Donc, de tout ça, de l'expertise aussi de cette façon-là pour pouvoir transmettre puis de dire que ben, les réels besoins soient répondus, c'est que les ressources, c'est aussi on travaille toujours avec des petites équipes, donc on fait multitâche, il faut être polyvalent aussi, puis sans parler aussi de la pénurie de main-d'œuvre aussi, donc les gens vont quitter leur emploi après peut-être 6 mois, 1 an, donc il y a encore beaucoup de roulement aussi, donc c'est encore un enjeu qui perdure depuis plusieurs années même.
Puis est-ce que tu voudrais parler un peu justement de l'INIPSH, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça offre comme service pour ceux qui ne connaissent peut-être pas?
Maud, elle est responsable du programme Interaidance. Elle pourrait vous en parler tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, de notre organisme, depuis 2018, il est récent, mais il est né d'un besoin vraiment, d'offrir des services, notamment tout ce qui est donc ce qui n'est pas répondu, donc le support psychosocial pointu concernant la violence, concernant les discriminations qu'on peut vivre. On est en complémentarité avec le réseau des autres personnes des autres organismes en situation de handicap. Moi, les programmes là, je les ai pas dans, mais il y a au moins cinq programmes qui s'articulent donc pour l'emploi, la reconnaissance, le bénévolat aussi. Et surtout aussi pour tout ce qui est violence et discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap. Donc, on veut atteindre une égalité, l'équité, l'égalité et l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Donc, on essaie de toucher à tout, mais on développe plus ou moins, doucement. On met des jalons pour pouvoir mettre en action notre programme qui est déjà établi et tout. Mais le programme Interaidance, quand même, il est plus actif, là, que Maud pourrait en parler, si tu permets, Maud.
Oui, effectivement. Donc, la ligne Interaidance, vraiment, qui a été mis au monde, qu'on pourrait dire, en 2020, en pleine pandémie, au mois d'août, où qu'on a eu du financement également pour pouvoir mettre en place une ligne d'écoute d'urgence du lundi au vendredi de 9h à 17h30, où que des bénévoles vont répondre aux appels, justement pour des personnes qui ont besoin soit de l'écoute, ou soit de se faire entendre aussi, ou tout ça, avoir juste des référencements. Souvent, ils ont passé parmi tellement d'intervenants que là, ils ne savent plus où aller trouver l'information. Surtout, avec la pandémie, on avait beaucoup d'appels sur demandes où sont les banques alimentaires accessibles, où que je peux trouver telle ressource ou telle compensation que les gouvernements offraient aussi, comment faire les démarches. Donc, c'est souvent ce genre de situation-là aussi. Donc, on voulait vraiment offrir un peu une ligne où que les personnes en situation de handicap et aussi les proches de ces personnes-là qui puissent justement nous appeler pour répondre à ce genre de besoins-là aussi et aussi faire à certains cas de l'accompagnement également. Donc, que ce soit de l'accompagnement, on fait pas les démarches pour eux, mais certaines démarches qui semblent un peu plus ardues, donc les accompagner pour qu'ils puissent obtenir leur service.
Super. Ben écoutez, on arrive déjà à la conclusion et puis moi, je termine toujours avec, je vous laisse un dernier mot de la fin. Puis comme on est Intergénération Québec, on veut rapprocher les liens entre les générations. J'ai envie de vous entendre un message que vous aimeriez laisser aux personnes en situation de handicap de l'autre génération. Donc, si je commence avec toi, Maud, si tu pourrais t'adresser aux personnes âgées qui sont en situation de handicap, ce serait quoi le message que tu aurais pour eux?
Je pourrais juste commencer par dire ben merci parce que certaines personnes comme Marlène Barilly qui est décédée a été une des premières pionnières aussi à ouvrir la porte à bien des personnes en situation de handicap puis d'aller au bac pour nous. Donc merci pour ça, puis c'est un bel héritage, puis je pense que aussi pour les générations futures, ben il faut aller chercher ce bagage de connaissances-là pour justement ramener d'autres dans le combat.
Je t'ai dit, moi, j'ai peut-être 55 ans, mais dans ma tête et mon cœur, j'ai 20 ans. Donc, moi, j'ai besoin de faire le fil. Donc, merci encore une fois à Maria Barillé, à Déborah Kennard, à Michel Blé, mon ami, qui ont semé les graines et qui sont en train de pousser actuellement. J'ai suivi, j'ai ressemé et j'aimerais que nos jeunes puissent ressemer à chaque saison. Parce que c'est une bataille ou un combat, je suis désolée d'utiliser ce mot, mais si on lâche, ça va retomber. Il faut toujours, c'est toujours un recommencement. Voilà, il faut pas lâcher prise. C'est parce que ce qu'on entend dans les générations, je veux dire dans la communauté en général, ah ça y est, on est arrivé, les jeunes sont arrivés. Mais si on lâche, ça va recommencer la même chose. Et plus on a des obstacles, comme nous, comme personnes en situation d'handicap, on a beaucoup d'obstacles. Il ne faut pas penser que tout est déjà là. Il faut ressemer pour les générations futures. Voilà.
Ben merci beaucoup pour tous vos témoignages. J'ai appris beaucoup de choses, puis je suis sûr que les gens qui vont nous avoir écoutés aussi. Puis oui, je pense que c'est ça. Je pense que ça va encourager les gens à justement continuer le combat, pas perdre ce qu'on a, puis là même améliorer les conditions. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Et il faut faire
aujourd'hui.
Les bébés. Ça, c'est important parce qu'on nous dit non, pas d'enfants pour les personnes en situation de handicap. Non. Si vous avez envie d'avoir des enfants, faites-le. C'est un bonheur d'avoir des enfants.
Oh, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, tout le monde. Bye-bye.
Bye. Merci à vous.
Merci à notre partenaire, l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, de nous avoir permis de faire la rencontre de ces deux invités profondément engagés. Pour supporter le balado Parole de génération, il suffit d'aller sur Apple Podcasts et Spotify pour lui laisser quelques étoiles et un commentaire. Ou encore, vous pouvez partager l'émission autour de vous, que ce soit par bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les coulisses du projet sur les pages Facebook et Instagram d'Intergénération Québec. Ce balado est financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ainsi que par la Ville de Montréal.